Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Aujourd'hui, nous allons parler du syndrome de Cushing chez les équidés. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous écoutez ce podcast à l'occasion de sa sortie, alors rejoignez-moi sur Instagram, @eponavette35, car j'ai le plaisir de vous offrir, via un jeu concours, un pot d'Equicush, le complément alimentaire des laboratoires Audevar pour soutenir les chevaux atteints d'un syndrome de Cushing. Et si vous vous demandez pourquoi utiliser de la phytothérapie dans cette maladie, eh bien, je vous laisse écouter l'épisode. Mais on va commencer par le commencement. Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce syndrome de Cushing ? Alors, vous connaissez peut-être le syndrome de Cushing sous le nom de DPIH, et c'est ce nom-là qui décrit le mieux ce qui se passe. Ça veut dire dysfonctionnement de la parse intermédiaire de l'hypophyse. Ça va être un désordre endocrinien qui met en jeu des hormones, neurodégénératif. Il est causé par la dégradation de certains neurones. Mais on va vous expliquer ce que veut dire tout ça, parce que ce sont un peu des mots barbares. Alors on reprend. Il faut se mettre dans le cerveau du cheval. En dessous de ce cerveau, un petit cerveau chez le cheval par rapport à la taille de la tête, mais on a deux glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypophyse, lui, il est divisé en trois parties. La pars distalis, la pars neuronale, qui nous intéresse pas tellement, et la pars intermédia. DPIH, vous vous souvenez, dysfonctionnement de la pars intermédia de l'hypophyse. Et pourquoi cette pars intermédia nous intéresse ? Parce que c'est elle qui va entraîner une augmentation d'hormones et de neuromédiateurs chez les chevaux malades et qui vont entraîner tous les symptômes et les signes cliniques des chevaux atteints de ce syndrome. Alors, comment ça se passe ? L'hypothalamus, il va produire plusieurs hormones, dont une qui s'appelle la dopamine. Et cette dopamine, elle a un effet inhibiteur sur la pars intermédia de l'hypophyse, c'est-à-dire que, en fait, plus il y a de dopamine dans le sang, plus la pars intermédia va être au repos, moins elle va produire d'hormones et de neuromédiateurs. Seulement, chez les chevaux vieillissants, chez les chevaux malades, il y a une dégénérescence de ces neurones dopaminergiques de l'hypothalamus. Ils fonctionnent plus bien et donc il y a moins de dopamine. Ce qui fait que moins de dopamine veut dire que cette pars intermédia de l'hypophyse va ne plus être inhibée, donc elle va être presque stimulée. Elle va produire de plus en plus d'hormones et de neuromédiateurs. Et parmi ces hormones et ces neuromédiateurs, on a l'ACTH. Petit aparté, c'est là qu'on va avoir un ACTH. Il existe, mais il n'est pas bioactif. Et donc, dans le syndrome de Cushing chez les équidés, cet ACTH n'entraîne pas d'augmentation du taux de cortisol, contrairement aux maladies de Cushing chez l'humain ou chez le chien, où là, on va aussi avoir beaucoup d'ACTH, mais il va entraîner beaucoup de production de cortisol, et le cortisol va entraîner les signes cliniques. C'est pas le cas chez le cheval. On a une augmentation de la CTH, on a une augmentation de la MSH, des endorphines, de plusieurs neuromédiateurs. En revanche, pas du cortisol. Et ça, c'est une vraie différence, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on dit syndrome de Cushing chez les équidés et maladie de Cushing chez le chien, même si honnêtement, on parle des deux et tout le monde comprend de quoi on parle. Donc vous l'aurez compris, tout part d'une dégénérescence des neurones de l'hypothalamus. Mais pourquoi ? Eh bien, c'est à cause du stress oxydatif et donc de la vieillesse en règle générale. On a tous un équilibre entre les oxydants et les antioxydants. Et plus on vieillit, plus ça va être déséquilibré. Notre corps s'oxyde, nos cellules s'oxydent, ça entraîne un vieillissement de l'organisme en général, ça peut entraîner des cancers aussi, mais ça entraîne parfois, et dans le cas du syndrome de Cushing en particulier, des dégénérescences neuronales. C'est pour ça que la maladie de Cushing, enfin le syndrome de Cushing, on le retrouve chez les chevaux quasiment exclusivement, enfin exclusivement d'ailleurs chez les chevaux âgés. Aujourd'hui, on a dans les chiffres entre 20 et 25% des chevaux de plus de 15 ans qui sont atteints d'un syndrome de Cushing. Et quand les chevaux ont plus de 20 ans, on passe à plus de 30% des chevaux qui vont avoir un syndrome de Cushing. Et ça, ça touche tous les équidés, les chevaux, les poneys, les ânes, les mules, les zèbres, voilà. Tous les vieux peuvent et sont souvent atteints d'un syndrome de Cushing. Alors, quand suspecter un syndrome de Cushing chez votre cheval? Les signes cliniques de cette maladie sont très très variables d'un cheval à l'autre et très différents. Donc, c'est pas quelque chose de facile à diagnostiquer juste sur les signes cliniques, sauf pour l'hirsutisme. Donc, les chevaux, ou certains chevaux, et souvent quand c'est depuis longtemps et que c'est, ça devient chronique, on va avoir des chevaux qui vont faire plus de poils et du poil plus long. Donc, quand vous voyez des vieux chevaux avec des poils frisés et beaucoup, beaucoup de poils, c'est qu'il y a toutes les chances pour qu'ils soient Cushing. D'autant plus que ce signe, l'hirsutisme, est vraiment spécifique à la maladie de Cushing. Il n'y a pas d'autre problème chez les équidés qui fait de l'hirsutisme. Donc, on dit pathognomonique. Si jamais vous entendez ce mot barbare un jour, ça veut dire qu'en fait, ça ne correspond qu'à une seule maladie. Mais il y a plein d'autres signes cliniques. On va avoir des chevaux amaigris, tout simplement, ou alors avec un abdomen pendulaire. On va avoir des chevaux qui vont faire des infections un peu récurrentes, des abcès de pied récurrents, des ulcères cornéens récurrents, qui vont avoir une augmentation de leur parasitisme parce qu'en fait le système immunitaire n'est plus très efficace. On va avoir des retards de la cicatrisation, des plaies qui ne cicatrisent pas sans aucune raison. On peut avoir des chevaux qui vont avoir des dégénérescences ligamentaires. C'est-à-dire que souvent, c'est le ligament suspenseur, mais ça peut être des entorses. Moi, j'ai déjà eu un vieux poney, pas si vieux d'ailleurs. Un des seuls signes qu'il avait, c'était des entorses à répétition. Il ne pouvait plus être monté parce qu'en fait, il se faisait mal à chaque fois. On l'a diagnostiqué Cushing, on l'a traité et sa propriétaire a pu le remonter. C'est un des cas dont je suis plus fière sur les Cushing, non pas que ce soit moi qui ai fait tout le travail, c'est le médicament, mais c'était assez valorisant de se dire que grâce au traitement et surtout au diagnostic précoce, le cheval a pu être remonté pendant quelques années. Donc voilà, ça c'est dégénérescence ligamentaire. On peut avoir de la léthargie, des chevaux qui sont mous, abattus, sans raison apparente. Des PUPD, alors PUPD ça veut dire qu'il boit beaucoup et qu'il urine beaucoup. Voilà, ça peut être dû aussi au Cushing. Des troubles de la fertilité, donc ça c'est intéressant de le savoir parce que si vous avez des poulinières un peu âgées, plus de 15 ans, hein, il y en a quand même, qui ont du mal à remplir, et parfois aller doser la CTH et aller chercher un syndrome de Cushing, ça peut être intéressant pour voir si ça ne joue pas sur la fertilité de la jument. Elle a aussi d'autres raisons d'être subfertile, hein, mais la maladie de Cushing en fait partie. Et puis, un autre signe clinique qui est heureusement plutôt rare, mais qui existe, ce sont les problèmes neurologiques et en particulier la cécité. C'est-à-dire qu'en fait, les chevaux, ils deviennent aveugles. Alors bien sûr, c'est progressif parce qu'en fait, comme je vous l'expliquais, les glandes dont on parle, et en particulier l'hypothalamus, se trouvent sous le cerveau, pas très très loin du trajet des nerfs optiques. Et dans le syndrome de Cushing, cette parse intermédiaire, comme elle n'est plus inhibée, elle va grossir aussi physiquement. C'est comme une forme de tumeur, en fait. Il y a de plus en plus de cellules qui sont produites, donc ça produit de plus en plus d'hormones. Hein. Et parfois, ça grossit tellement que ça écrase le nerf optique, et donc les chevaux deviennent aveugles progressivement. Et là encore, grande amélioration quand on les met sous traitement parce qu'il a été montré que le traitement permet de diminuer la taille de cette parse intermédiaire et donc parfois de faire retrouver la vue à certains chevaux, ce qui est quand même assez fort parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on arrive à faire ça. J'imagine qu'à ce stade, vous êtes nombreuses et nombreux à se demander « et la fourbure là-dedans ?» Ben oui, parce que la fourbure, c'est un des signes cliniques de la maladie de Cushing. Alors, petit aparté, s'il y a besoin de le redire, mais la fourbure, c'est une inflammation dans le pied qui va entraîner un décrochement du sabot et de la troisième phalange. C'est très très douloureux, c'est grave, voire très grave, et c'est irréversible. Ça peut aller jusqu'à l'euthanasie des chevaux qui n'arrivent plus à marcher. Aujourd'hui, on ne connaît pas le mécanisme de la fourbure, et peut-être qu'on en rediscutera dans un autre podcast. Ce qu'on sait, c'est que l'insuline est en jeu et qu'on a environ 30 à 50% des chevaux Cushing qui font de la fourbure. Quel est le rôle du Cushing et de l'insuline? On ne sait pas exactement, mais on sait que la fourbure en fait partie et c'est une des raisons majeures pour lesquelles on va aussi traiter ce syndrome de Cushing, parce que la fourbure est le syndrome le plus grave de ce syndrome. C'est pas toujours facile de faire la différence entre le vieillissement normal de votre cheval, parce que tous les chevaux vieillissent, et un vrai syndrome de Cushing. D'autant plus que c'est une maladie évolutive, les neurones dégénèrent de plus en plus, et donc on va avoir des formes précoces et des formes plus tardives et plus chroniques. Et à partir du moment où on se pose la question, il est intéressant d'aller faire un diagnostic, d'aller faire une prise de sang pour savoir si, oui ou non, on a un syndrome de Cushing, peut-être débutant, mais au moins s'y intéresser. Et ce n'est pas parce que un cheval à 15 ans n'a pas un syndrome de Cushing qu'il ne l'aura pas à 20 ans, puisque la dégénérescence des neurones va continuer. Pour faire le diagnostic, c'est assez simple, on dose l'ACTH avec une prise de sang. Vous vous souvenez, la pars intermédiaire de mon hypophyse, elle dysfonctionne, elle produit plus, et elle produit plus d'ACTH. Donc on dose l'ACTH et il est plus élevé. Si jamais c'était si simple, ce serait bien, mais c'est le principe. La prise de sang, je vous le dis pour que vous puissiez comprendre quand votre vétérinaire vous propose cette prise de sang, l'ACTH, il est pas très stable. Ça veut dire que il faut envoyer la prise de sang rapidement, dans les 24 heures, sous couvert du froid, et il faut centrifuger le tube. Ça, c'est de la responsabilité de votre vétérinaire, mais ça peut être une explication pour laquelle, moi personnellement, je fais mes prises de sang plutôt le matin en début de semaine. Voilà, on ne fait pas un diagnostic de Cushing avec un dosage d'ACTH le vendredi à 16h. C'est une très mauvaise idée et les résultats ne seront pas fiables. Et cette prise de sang, il y a aussi un intérêt à la faire à une certaine période de l'année. En fait, l'ACTH varie naturellement chez tous les chevaux, sains ou malades, en fonction de l'année. Et il y a un pic d'ACTH de mi-août à mi-octobre, donc au niveau de l'automne. Il se trouve qu'à ce moment-là, les chevaux sains vont avoir plus d'ACTH que le reste de l'année, mais les chevaux malades vont avoir non seulement plus d'ACTH que les chevaux sains, mais encore plus fort, avec une différence encore plus élevée. Je vous invite à aller récupérer la fiche podcast ou les diapositives sur les réseaux, parce que le graphique y est, et il est très intéressant, et on comprend bien grâce à ce graphique que faire une prise de sang en septembre va permettre de faire la différence plus facilement entre un cheval malade et un cheval sain. Après, aujourd'hui, il y a plein d'études qui ont été faites. On sait très bien faire le diagnostic tout au long de l'année. Les mesures et les valeurs, en revanche, varient. Donc, il faut faire attention. Et si on a un doute, si on est dans une zone grise, si on est sur un cheval un peu jeune, alors ça a un intérêt de faire cette prise de sang plutôt à l'automne. J'en parle très vite fait, mais il n'y a pas que l'ACTH à doser dans un syndrome de Cushing. Il faut aussi doser l'insuline, surtout quand on a un cheval fourbu, parce que seul le syndrome de Cushing n'explique pas la fourbure. C'est l'insuline aujourd'hui qui déclenche les fourbures et il faut aussi doser cette hormone. Mais c'est un autre sujet qu'on développera avec plaisir dans un autre podcast. Si on parle du traitement, aujourd'hui, le seul médicament pour traiter le syndrome de Cushing, c'est une molécule qui s'appelle le pergolide. En fait, elle va mimer la dopamine. On dit que c'est un agoniste dopaminergique. Elle fait la même chose que la dopamine et donc elle va revenir inhiber la pars intermédia qui va revenir à des niveaux d'hormones normaux et de base. Et la chose qui est vraiment très intéressante, je vous en parlais dans les signes cliniques, mais c'est que ça va même faire diminuer de taille cette pars intermédia et parfois redonner la vue aux chevaux qui l'ont perdue. Donc c'est un médicament qui est très efficace. Mais c'est aussi un médicament qui est très cher, malheureusement. Et comme c'est un traitement qu'il faut faire à vie, ben voilà, faut bien réfléchir à est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. Une fois qu'on l'a démarré, c'est une fois par jour. On essaye de le faire le soir plus tôt. Et ensuite, il faut bien ajuster la dose. Parce que la dégénérescence neuronale, elle est là, elle continue à être là, voire elle s'aggrave. Et donc, on va avoir toujours une diminution de la dopamine chez le cheval et donc toujours un besoin en pergolide presque de plus en plus élevé avec l'âge. On ne sait pas s'il y a une habituation du cheval à la molécule, c'est possible. Dans tous les cas, aujourd'hui, C'est le seul médicament qui existe pour gérer cette maladie. Il a été commercialisé en princeps, c'est le Pracent, mais aujourd'hui, on a des génériques, le Pergolife, des laboratoires Haute-Var d'ailleurs, et le Praséquine, qui sont disponibles sur le marché français. Alors pourquoi on traite ? Ben déjà, si le cheval fait de la fourbure, il faut traiter le Cushing avant d'aller gérer que l'insuline. Indispensable. Et comme on l'a vu, la fourbure, c'est le truc le plus grave qui peut arriver à un cheval Cushing. Et ensuite, l'intérêt de traiter, c'est quand même d'apporter du confort et une amélioration de vie à votre cheval. On a vu qu'il y avait des problèmes de léthargie, d'amaigrissement, d'infection chronique. Et tout ça, ça pèse sur le cheval, ça pèse sur son confort de vie. Et rien que pour ça, c'est intéressant de traiter. Alors malheureusement, il y a quelques effets secondaires du pergolide. On va avoir parfois des anorexies, des coliques. C'est surtout de la diarrhée ou de la tachycardie. Mais il faut diminuer la dose, la réaugmenter progressivement, essayer d'autres médicaments. Mais alors, les autres médicaments décrits chez le cheval sont encore plus onéreux. Donc honnêtement, c'est jamais fait. Et puis, essayer de passer ou en complément ou à la place sur de la phytothérapie. En phytothérapie, vous allez trouver plein de choses sur internet, je n'en doute pas. Il faut savoir que chez le cheval, il y a quelques publications qui ont été faites sur le gâtillier, ou poivre des moines, ou vitesse anus castus, si vous voulez tout savoir, qui vont avoir une efficacité sur l'hyperhydrose, l'hirsutisme, la léthargie. A priori, ça aurait pas trop d'action sur la CTH seule. En médecine humaine, on sait que le gâtillier, ça aide pour gérer l'hyperprolactinémie chez la femme, les syndromes prémenstruels. Peut-être que ça aurait une action dopaminergique. Dans tous les cas, c'est la seule plante en phyto qui va aider vraiment sur le côté hormonal du syndrome de Cushing. Mais vous l'avez compris maintenant, le syndrome de Cushing, il est lié à un stress oxydatif. Donc tout ce qui va être antioxydant est intéressant pour ralentir l'évolution de la maladie. Certes, on va pas jouer sur les hormones, mais on va jouer sur la cause. Donc ces compléments-là aussi sont intéressants. Tous les compléments aussi qui vont apporter une meilleure immunité, qui vont aider le système immunitaire, qui est mis à mal à cause du syndrome de Cushing, eux aussi vont être intéressants, puisqu'ils vont aider le cheval à pallier les manquements à cause de sa maladie. Est-ce qu'il y a des effets secondaires aujourd'hui ? Je n'en ai pas connaissance. Moi, j'utilise donc deux produits en phyto, dont les Kikush d'Haute-Var, et ils sont bien tolérés, ils sont efficaces, j'en ai même qui ne toléraient pas du tout les médicaments, le pergolide, et qui sont très bien gérés sous Cushil. Mais donc, voilà, la question c'est, on traite un cheval, on ne traite pas une prise de sang, est-ce qu'il y en a besoin ? Est-ce que le cheval ne tolère pas le pergolide et il faut passer complètement sur de la phyto, ou est-ce qu'on le met en complément au traitement ? Est-ce qu'on le met que en cure à l'automne, puisqu'à l'automne on a une augmentation de la CTH et donc le cheval est moins bien à l'automne, mais le reste de l'année avec son pergolide ça va ? Voilà. Mais il y a une vraie place aujourd'hui de la phytothérapie dans la gestion du syndrome de Cushing chez le cheval. À côté de ça, il y a toute une gestion au quotidien à faire avec ces chevaux Cushing. D'abord, il faut vraiment bien gérer l'alimentation. On est sur des vieux chevaux, il faut une alimentation riche en énergie, mais de préférence plutôt faible en sucre, en particulier chez les chevaux qui vont être hyper insulinémiques, et ça il faut vraiment le savoir. Ensuite, il faut une alimentation où on va apporter des antioxydants, de la vitamine E, de la vitamine C, du sélénium, du zinc. Et puis, prévenir les infections. On est sur des vieux chevaux dont le système immunitaire n'est pas très fort, même s'ils sont traités, un bon suivi dentaire est indispensable. Une vaccination, on ne les oublie pas, même si ce sont des vieux chevaux. Une très bonne vermifugation. Et puis, un suivi maréchal, fourbure, abcès de pied, fourmilière sont assez fréquents dans le Cushing. Et les chevaux profitent d'un bon suivi maréchalerie aussi. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ce podcast pour lui permettre d'avoir plus de visibilité. Et je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous propose plusieurs formations si vous voulez en savoir encore plus. N'oubliez pas notre jeu concours Instagram pour gagner un Equicush et je vous dis à très vite !